Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le général Pierre de Villiers.
Très heureux de vous recevoir ce matin sur RTL. Bonjour à vous. Merci d'être dans ce studio. Votre démission sans précédent sous la Ve République restera comme un fait marquant du début du quinquennat Macron, vu publier Servir chez Fayard. Un livre qui témoigne d'un souci de sobriété, mais qui, sur le fond, ne lâche rien. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, une question simple. Pourquoi ce livre? Trois mois après ce départ, somme toute, c'est assez rapide. Vous ressentiez le besoin de préciser certaines choses?
Bonjour Elisabeth Martichoux, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de votre invitation. Pourquoi ce livre? C'est très simple. C'est d'abord un témoignage après 43 années passées au service du succès des armes de la France. Et j'ai des choses à transmettre. La deuxième chose, c'est que je veux expliquer aux Français quelle est la situation, quelle est la menace, quels sont les risques, et pourquoi il faut qu'ils soient protégés, comment. Et puis la troisième, c'est peut-être un message d'espérance. Je sors de ces années de chef d'état-major des armées avec un message d'optimisme sur la jeunesse. Je crois que nous avons une belle jeunesse, il faut l'aimer et elle nous le rendra.
Et vous y consacrez d'ailleurs un chapitre entier à la fin du livre. Vous avez la réputation d'être à la fois loyal et franc. On va en avoir la preuve. Pour
c'est
expliquer
possible.
Votre départ, il y a, dites-vous, la forme et le fond qui est évidemment la question décisive des choix budgétaires que vous avez critiqués. On y reviendra longuement. Mais d'abord, la forme. Il y a discours d'Emmanuel Macron le 13 juillet au ministère de la Défense qui, sur un ton sec, très sec, assène « Je suis votre chef » et il fait la son sur ce que doit être, ça dure une minute, sur ce que doit être le devoir de réserve. Sans vous citer, il vous vise à l'évidence. L'entendre dans ces termes, sur ce ton, ça a été un choc?
Écoutez, j'ai démissionné le 19 juillet pour deux raisons principales. La première, c'est une raison de fond, vous l'avez évoqué, sur le niveau des arbitrages. C'est un choix politique et je pensais qu'il fallait faire un effort budgétaire supplémentaire et plus vite. Et en tout cas pour 2017, je n'avais pas prévu qu'on m'annule 850 millions d'euros brutalement et sec.
Et ça, vous l'avez appris, j'allais dire, comme nous. Quand Gérald Darmanin l'annonce, à la fois d'ailleurs aux Parisiens et sur RTL, le 11 juillet, vous l'apprenez à ce moment-là. Vous n'aviez pas du tout été prévenu qu'on allait couper 850 millions dans le budget de 2017.
Non, les négociations étaient en cours, je n'avais pas cet élément. La deuxième raison, c'est effectivement le discours à l'hôtel de Brienne, la veille du 14 juillet, cette grande fête du lien entre l'armée et sa nation, devant le monde de la défense, devant les familles des soldats décédés dans l'année, devant les blessés que je connaissais personnellement, pratiquement chacun d'entre eux, devant mon homologue américain, j'ai estimé que les propos du président étaient suffisamment forts pour altérer le lien de confiance qui est indispensable entre le chef des armées, le président de la République, et le chef d'état-major.
Et quand vous l'entendez prononcer ces mots, et vous l'écrivez dans votre livre, effectivement, devant vos troupes, devant votre homologue américain, vous savez à ce moment-là, vous comprenez à ce moment-là que vous ne pouvez pas rester à votre poste. On a beaucoup dit l'armée s'est sentie humiliée, ce qu'on a dit, on l'a écrit. Vous vous sentez humilié?
C'est pas un sentiment d'humiliation personnelle. Si vous voulez, je n'ai aucun problème personnel dans cette affaire. Je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme de responsabilité. Et je savais qu'à un moment ou un autre, ma responsabilité allait se terminer. Et quand on est soldat, on sait gérer les crises. Je crois que c'est plutôt la surprise face à ces propos. Ensuite, j'ai pris le temps, comme
la
vous
stupeur,
avez vu...
La surprise, oui.
J'ai pris le temps de réfléchir, car comme vous l'avez très bien dit au tout début... c'est la première fois, durant la Ve République, qu'un chef d'état-major démissionne. C'est pas rien comme événement. Et donc, avant de prendre ma décision définitive, que j'ai prise le lundi à peu près à midi...
Le 17 juillet.
Quand j'ai rangé mon casoar dans sa boîte...
Le casoar,
c'était
c'est...
terminé.
Ce
le plumet plumes, rouge voilà. et blanc porté par les Saint-Cyriens
qui m'avait
été remis le 2 décembre 1975 par mon ancien une année au-dessus de moi, c'est là que j'ai pris ma décision définitive.
Dans la solitude, de votre bureau, d'ailleurs écrivez-vous, exceptionnellement fermé ce jour-là, autour de 15h, vous décidez, c'est irrévocable dans votre esprit, de démissionner. Vous présentez votre démission au président Macron ce jour-là, vous le révélez. Oui. Et alors, il la refuse ?
Il a pris le temps de la réflexion lui aussi, car c'est pas rien non plus. Et nous avons eu un échange dont je ne dirai rien aujourd'hui parce que je n'en dis rien dans mon livre.
Le 17 ou le 19 juillet, le jour même ?
Le 17.
Le 17, vous vous parlez ?
Bien sûr.
Vous vous voyez déjà ?
Bien sûr.
Et à ce moment-là, il vous dit, réfléchissez, il vous fait des propositions ?
Nous convenons de réfléchir.
Donc il vous fait éventuellement, il cherche une, peut-être un terrain d'atterrissage pour que vous puissiez à la fois... conforme à votre...
Je n'en dirai pas plus,
vous n'en dirai pas
car
plus.
Je suis d'une loyauté totale. Je suis un soldat. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est un des objectifs du livre, c'est d'expliquer qui nous sommes, nous, les militaires, qui pouvons aller dans notre engagement jusqu'à y laisser notre peau.
Mais,
c'est ça qui m'intéresse.
Mais vous dites, la vraie loyauté, général, la vraie loyauté consiste à dire la vérité à son chef.
Exactement.
La vraie liberté d'être capable de le faire, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, vous lui dites à ce moment-là, c'est irrévocable, il essaye de vous retenir, peut-être, ça dure deux jours. Le 19 juillet, c'est fait.
Le 19,
vous voyez 50
à 8h du matin.
Ouais.
Et je lui amène ma lettre de démission, il l'accepte.
Il ne peut plus faire autrement.
Écoutez, c'était préférable de clore cette séquence le plus vite possible. Moi, mon souci, ce n'est pas ma personne. Ça existe encore, des gens complètement désintéressés. Mon souci, c'était que les armées puissent être commandées avec un lien de confiance entre le chef, le président de la République, et le chef d'état-major des armées, qui soit totalement rétabli. Mmh. Or, il était trop abîmé.
Abîmé par la colère du président, mais à l'origine de la colère, il y a votre franc-parler, lors d'une audition à huis clos à l'Assemblée nationale, où vous dites, dans des termes très crus, ce sont les vôtres, voilà, vous ne cachez rien. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je ne veux pas me laisser baiser. Et puis vous dites, c'est intenable, le budget est intenable. Ça fuite.
Par Bercy,
bien sûr. Ça fuite.
Ce propos ne figure pas dans le compte-rendu officiel,
non,
donc j'avais
veillé.
Pris les garanties nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Moi, je pense qu'il faut, avec la représentation nationale, faire preuve de la totale franchise. Ce ne sont pas des exercices de communication, les auditions d'un chef d'état-major des armées. C'est un exercice d'information, en toute objectivité et vérité. Et c'est toujours comme ça que j'ai été
vous
dans l'exercice de ma responsabilité.
Rien.
Cette vérité, je l'exigeais de mes subordonnés, qui se faisaient réprimander par mes soins quand ils ne me disaient pas ce qu'ils avaient envie de me dire par flagornerie ou par absence de courage. Je pense que par les temps qui courent, la situation est suffisamment grave avec le niveau de menace que j'évoque dans mon livre pour que nous travaillions en vérité. Et la vérité, c'est la liberté. Et la liberté, c'est finalement le bonheur. C'est ce que j'explique dans mon livre.
Vous ne regrettez rien, pour dire
absolument.
Les choses. Absolument rien. Parce que vous le dites dans votre livre aussi, dans les premières phrases. Quel gâchis.
Oui.
On y entend quand même comme un regret.
Oui, c'est un gâchis, on aurait peut-être pu faire autrement. On aurait pu faire autrement, probablement.
Ouais. C'est-à-dire faire autrement financièrement, c'est cela que vous dites d'abord.
On aurait pu faire autrement sur le fond et sur la forme.
Général de Villiers, vous décrivez les manques de moyens dans le livre, il faut le lire, des hélicoptères en panne, des drones insuffisants, des moyens insuffisants qui vous obligent à annuler des opérations. Et puis page 154, voilà ce que vous écrivez, le nouvel gouvernement annonce une augmentation d'1,8 milliard dans le budget 2018. Nous verrons bien au moment du vote si nous sommes plus près de 35 milliards d'euros que de 34. On a vu, mardi soir ça a été voté, 34,2 milliards en tout. Le compte y est ou le compte n'y est pas, d'après ce que vous dites ?
Cette expression, c'est pas la bonne. La question, c'est,
est-ce que c'est
quel
tenable
est le bon
est-ce
niveau de ressources pour faire face aux besoins ? Et ces besoins, quels sont-ils pour faire face à la menace ? C'est-à-dire, un militaire, il part toujours de l'adversaire. Moi, j'estimais que, puisque vous parlez du budget 2018 qui vient d'être voté, j'estimais qu'il fallait être plus proche de 35 milliards que de 34. Donc je dis qu'avec ce niveau de ressources, nous ne pourrons pas faire face au besoin immédiat et urgent de régénération du modèle d'armée dont je veux bien parler avec des exemples concrets. C'est ça la question. Il y a la modernisation dans la durée jusqu'en 2025 et la pente doit aller jusqu'à 50 milliards d'euros.
C'est la promesse du président.
Europex et Europension, chaque mot compte. Mais ensuite, il faut que, dès à présent, l'effort soit substantiel. J'ai fixé, avec une pente linéaire, à 2 milliards par an.
Et pour l'instant, il n'y est pas. On y reviendra avec les auditeurs qui vont vous poser des questions précises pour approfondir ces besoins. Dernière question, vous estimez qu'avec ce budget, l'engagement n'est pas tout à fait tenu?
J'estime que c'est un effort substantiel, je le mesure à l'aune des difficultés budgétaires de la France, bien sûr, au plan comptable, mais en réalité, le financement des engagements du quinquennat précédent vont consommer l'essentiel de ce qui a été voté en plus du budget 2017 pour 2018. C'est ça la question. C'est que moi, au-dessus de tout ça, il fallait quelque chose de plus, notamment pour la protection des forces, la protection des emprises et la protection des hommes.
Autrement dit, ça ne peut pas améliorer sur le terrain de façon substantielle, telle que vous le souhaitez, les moyens des hommes qui sont engagés. Aujourd'hui, on y revient avec les auditeurs. Servir chez Fayard, le général de Villiers était sur RTL ce matin.
Le général de Villiers qui vient très clairement de nous dire qu'il faisait reposer sur le président Macron la rupture du lien de confiance entre le chef des armées et son chef d'état-major. Mon général, je vous laisse profiter d'un bon café RTL. Je vous retrouve à 8h20. Cette fois, ce sont les auditeurs qui vont vous poser des questions. Quelle est la menace? Qui sont nos adversaires? Quel avenir et pour quelles opérations pour l'armée française? Toutes vos questions au 3210 et par SMS aussi au 64 900 code matin.